Bienvenue à la caserne Achard à Poitiers, où nous débutons la conférence radiophonique pour faire mieux avec moins, la sobriété foncière au service des territoires. Cette conférence est la première action de médiation de la démarche Territoire pilote de sobriété foncière, initiée à l'échelle nationale. Elle est portée en local par Grand Poitiers Communauté Urbaine et l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine et menée par l'équipe pluridisciplinaire composée de Selva et Mogin, Urban Idée, Guam et Tout Terrain en charge de la médiation. Nous avons l'honneur d'être en présence de Philippe Biwix. Du coup, je voudrais commencer par vous citer en rapportant que le constat est sans appel. La croissance urbaine, résultat des évolutions démographiques et des recompositions socio-économiques, est insoutenable sur le long terme. Le poids environnemental des villes est énorme par leur fabrication, c'est-à-dire artificialisation des sols, consommation des ressources, énergie grise et émission de CO2 des matériaux de construction, ciment, acier, verre, aluminium, et par leur métabolisme, sous-entendu énergie de fonctionnement, matière, déchets, mobilité des personnes et des marchandises. Le secteur du bâtiment, des travaux publics et des VRD est l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre et l'un des principaux consommateurs de ressources extraites des mines, des carrières et des sablières. 50% de l'acier, 20% de l'aluminium, 25% des plastiques, 100% ou presque des granulats sont engloutis pour construire et entretenir nos villes et leurs infrastructures. Les rendre écologiques ou durables, sans même parler de neutralité carbone, est un défi énorme. Je ferme la citation. Pour relever ce défi, vous dégagez des pistes à explorer. L'une d'elles serait la densification. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage à ce sujet, s'il vous plaît ?
Oui, volontiers. Alors, je vais répondre un tout petit peu hors sujet, peut-être, pour essayer d'élargir un petit peu le débat. Et sans doute, mes exemples ne vont pas être très contextualisés sur Poitiers, mais ce n'est pas grave, on recontextualisera avec Sylvain. Donc, effectivement, la question de la densité des villes, de la bonne densité, du fait qu'il y a une bonne densité ou une mauvaise densité pour être écolo, c'est un truc qui arrive à la fin des années 80, assez tardivement. D'ailleurs, si on réfléchit un peu au développement de la France pavillonnaire, ça s'accélère beaucoup dans les années 70, dans les années 80. Et c'est vers la fin des années 80 qu'il y a des chercheurs, en particulier des chercheurs australiens. L'un s'appelle Newman, l'autre Kenworthy. Et ils vont faire des études sur des villes australiennes, sur des villes américaines, sur des villes européennes. Et ils vont trouver un truc qui est finalement un petit peu tautologique au départ, qui est qu'ils vont comparer en fait la consommation d'énergie des villes en fonction de la forme urbaine et du niveau de densité. Et ils vont se rendre compte qu'en gros, je dis que c'est un peu tautologique parce qu'on n'était pas obligé de faire des études, mais ça va mieux dans le domaine scientifique en prenant quelques données quand même, que finalement, plus les villes sont étalées, et plus les habitants sont dépendants de la voiture. Et donc, plus ils prennent leur voiture, plus ils dépensent de l'énergie, forcément. Et donc, finalement, va émerger comme ça. Alors, dans l'ordre, c'est les villes américaines qui sont évidemment les plus dépendantes, les plus étalées. Puis les villes australiennes sont un peu entre les deux. Puis finalement, les villes françaises, enfin, ils prennent des grandes villes, hein, essentiellement des métropoles. Elles sont plutôt pas mal parce qu'elles sont concentrées, elles ont plus de transports publics, etc. Et évidemment, on comprend que c'est assez naturel parce que, si on a des populations plus concentrées, ça rend les transports publics potentiellement plus pérennes, plus faciles à financer, évidemment. Hein, donc ça va donner aussi un urbanisme qui va se développer un peu en lanière, si vous voulez, hein, en disant qu'il faut concentrer autour des nouveaux tramways, etc. Donc va s'installer dans la puissance publique, un peu à tous les niveaux, le fait que une ville écolo, c'est une ville dense. C'est une ville concentrée. Et que finalement, ce modèle de la campagne, de la petite ville, du pavillon, c'est un mauvais modèle parce que c'est un modèle qui est dépendant de la voiture et donc il faut finalement presque la logique de métropolisation finalement qui va un peu apparaître aussi, avec aussi la logique de ces villes qui veulent devenir plus grandes, qui veulent avoir leurs universités dans le classement de Shanghai, plein de choses comme ça pour attirer, pour créer de l'emploi, qui vont faire finalement des affiches de pub à Paris en disant « Venez chez nous en vacances ou vous installez ». Cette logique-là de métropolisation, elle va même être favorisée quelque part par le fait de dire « C'est bien finalement qu'on accueille les nouvelles populations ». Quand je dis « nouvelles populations », un peu de l'accroissement démographique, d'une manière beaucoup plus dense que ce qu'on a pu faire dans les années 70 et 80. Donc ce truc-là va s'installer. Et en fait, évidemment, à côté de la question de la consommation d'énergie, il y a la question d'artificialisation des sols, évidemment, qui va elle aussi s'inviter. Alors un peu plus tardivement, hein, la prise de conscience, elle va plutôt être dans les années 2000, où il va y avoir des punchlines sur, vous savez, on artificialise un département tous les 10 ans, on artificialise même peut-être un département tous les 7 ans, à un moment quand on était un peu au pic du rythme d'artificialisation. Donc ça veut dire quand même beaucoup, hein, parce que ça veut dire qu'en gros, en 7 à 8 siècles, à ce rythme-là, l'intégralité de la France, y compris les Cévennes, je ne sais pas quoi, le Marais Poitevin, serait couvert de parkings, d'IKEA, de je ne sais pas quoi, de logements. Donc, évidemment, c'est une absurdité. On sait bien que ça ne va pas se passer comme ça, qu'à un moment, ça va s'arrêter. Mais voilà, c'est quand même un rythme qui est assez impressionnant. Donc, de l'ordre de 30 à 60 000 hectares. Alors, pardonnez un peu l'écart... ça fait beaucoup, évidemment, ce qui montre les incertitudes statistiques aussi, la difficulté de la puissance publique à mesurer cet effet qui est en fait très très complexe, parce qu'il peut y avoir des jardins, des fonds de parcelles qui s'artificialisent, il peut y avoir des choses qui ne sont pas capturées par les satellites, etc. Donc, il y a différentes méthodes. D'ailleurs, depuis, il y a une loi qui est passée qui va finalement doter la puissance publique d'un outil de mesure. Voilà. Donc, utilisation de la voiture et artificialisation, ça va être un peu les deux sujets qui vont faire dire qu'on doit densifier, on doit faire de la densité. Alors, on va dire que tout ça est relativement vrai. À un bémol près peut-être, c'est qu'on a peut-être un peu trop espéré de la densité ou de la densification. Et qu'on est sans doute allé un peu trop loin à un certain nombre d'endroits, et qu'aujourd'hui la métropolisation et le fait de monter très haut, il y a un débat par exemple en ce moment sur le périphérique parisien, qui s'est relancé, est-ce que ça doit devenir un couloir vert autour de Paris, ou est-ce que ça doit être au contraire un espace de foncier pour venir construire des immeubles, des bureaux, des logements? Eh bien, quand vous commencez à faire des dalles qui permettent de couvrir un périphérique ou de couvrir des voies ferrées, vous allez consommer quand même une quantité de béton importante, d'acier, etc. Donc vous allez mobiliser tout ce qu'on appelle un métabolisme pour construire cette ville, pour construire cette ville dense. Et puis vous pouvez imaginer aussi que si vous montez trop haut, vous allez avoir aussi besoin de fonder votre bâtiment plus profondément. Vous allez faire des parkings sans doute en sous-sol parce que vous n'avez pas de place. Vous allez devoir installer des ascenseurs, des surpresseurs pour monter l'eau à 15 étages, etc. Donc il y a un moment où la densité est trop forte, elle devient consommatrice de ressources, elle devient consommatrice d'énergie, et peut-être elle devient quelque part contre-productive. Alors c'est un truc qu'on n'arrive pas trop à mesurer, mais finalement la ville très dense, hein, c'est cette idée de l'urbain très dense qui serait donc très écolo parce qu'il se balade à pied, il prend le métro et puis il va en vacances en train et il loue un vélo en arrivant, hein, je caricature évidemment un petit peu, puis il vote ELV en plus pendant les élections. Eh bien en fait on s'aperçoit que cet urbain très consommateur, il est aussi générateur d'artificialisation au-delà du périmètre de la ville où il habite. C'est-à-dire que finalement, il y a aussi ce qu'on appelle les espaces servants de la ville, la logistique, le traitement des déchets, l'entreposage, tout ce qu'il faut pour lui amener sa consommation, qui peut être une consommation du marché, mais aussi d'une consommation sur Internet, etc. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la pression foncière sur... je prends l'exemple de la région parisienne, mais je pense que c'est un petit peu vrai partout... elle est évidemment sur la partie du logement, et on y reviendra largement, je pense, ce soir, mais elle est aussi sur l'activité. Et aujourd'hui, l'activité, c'est quoi? La pression sur l'activité, c'est des data centers et des entrepôts logistiques, quoi, en gros. Hein. Bon, si je simplifie, évidemment, outrageusement, va venir sans doute la relocalisation qu'on attend depuis la crise sanitaire, puisqu'on va reproduire un peu plus de trucs chez nous, mais pour l'instant, c'est un peu ça. Donc finalement, cet urbain dense écolo, en fait... il se déporte quelque part à l'extérieur de la grande ville. Et donc finalement, il y a un phénomène de métropolisation, mais il y a aussi un phénomène d'artificialisation qui se passe en même temps que la densification. Donc c'est assez étonnant. On est en train peut-être de se rendre compte maintenant, après une ou deux décennies de tentatives de densification, que peut-être il y a une bonne et une mauvaise densification, parce que pour l'instant, en fait, on a densifié et étalé à la fois, quoi, quelque part. On a densifié et consommé du sol. Donc on n'a peut-être pas trouvé la bonne équation pour l'instant de la densification. Et puis il y a un dernier point, peut-être sur l'aspect de est-ce que la ville très dense, elle est très écolo. Alors là, c'est peut-être plus pour des échelles métropolitaine que pour une échelle comme de ville moyenne, effectivement, comme ça a été dit. C'est le fait que c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'effet barbecue. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Alors, ça fait un peu débat chez les sociologues, chez les urbanistes, en fait. C'est cette idée que finalement, même la courbe de Newman et de Kenworthy, qui fait encore un peu référence en disant, bah oui, à la campagne, on est dépendant de la bagnole, et puis voilà, et dans sa zone de pavillonnaire. Et qu'en fait, finalement, aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à se rendre compte que l'urbain très dense, qui n'a pas de voiture, eh bien le week-end, il a besoin d'aller au vert, en fait. Et donc, il va se déplacer. Il va aller faire un week-end, je ne sais pas où, alors en Normandie, ou peut-être avec l'aviation low cost, il va même aller faire un week-end spa à Budapest. Et il va faire des vacances aussi, parfois plus lointaines, parce qu'il adore la nature, en fait, et c'est vraiment sympa, les treks au Chili. Voilà. Et qu'en réintégrant, en fait, la consommation d'énergie du week-end et des vacances, quelque part, avec cet urbain dense qui a finalement aussi peut-être un petit peu plus de capacité de dépenses, peut-être en moyenne que la population, eh bien, en réintégrant ça, finalement, la dépense réelle d'énergie liée au déplacement de l'urbain dense, elle peut être plus importante, elle devient même plus importante que finalement l'habitant de son pavillon tranquille sur qui on n'arrête pas de taper. Et pourquoi ça s'appelle l'effet barbecue ? Parce qu'évidemment, pendant que l'urbain il fait son déplacement à coup de TGV ou à coup d'aviation low cost, eh ben l'habitant du pavillon peut-être fait un barbecue avec ses voisins. Et donc, lui, il n'a pas bougé et n'a pas eu besoin en fait, de s'extraire pour aller retrouver de la nature qu'il n'a pas forcément sur place. Et donc, ça pose aussi une autre question, qui est la question de la juste manière de faire de la densité, justement, de la densification, c'est cette question de l'acceptabilité, qui est que finalement la densification, pourquoi pas, à une certaine échelle, certainement, et donc à une échelle justement de ville moyenne, on voit bien qu'on a un tissu, pour le coup, que ce soit un tissu d'activité ou un tissu de logement qui est très lâche, si je puis dire, enfin, qui est très, voilà, où il y a de la place, il y a eu quelque part, ça s'est fait à un moment où la question du foncier ne se posait pas, donc on avait la place, on s'étalait et on faisait peut-être... Voilà, des zones d'activité avec tout ce qu'il faut pour faire demi-tour aux 38 tonnes, des espaces de stockage, des parkings trois fois plus importants que ce qu'on a besoin, etc. Donc maintenant, on a tout ça. La densification, elle doit se faire avec une amélioration de l'espace public, avec une amélioration de la qualité de vie, parce que sinon, évidemment, eh bien, ça peut être vécu comme une difficulté. Et puis, ça doit être aussi à la bonne hauteur, à la bonne échelle. C'est-à-dire qu'évidemment, si je vois surgir un truc de R+5 ou R+6 en face de chez moi, du côté où vient le soleil de préférence, forcément, ça va me faire un petit peu râler. Donc, ça ouvre plein de questions sur la manière de faire effectivement cette densification.
Ce podcast est le deuxième d'une série de 6 issus de la conférence « Pour faire mieux avec moins », la sobriété foncière au service des territoires, qui s'est déroulée le 6 juillet 2022 à la caserne Achard à Poitiers, dans le cadre de l'étude Territoire pilote de la sobriété foncière. Il a été réalisé par Tout Terrain, co-conçu et organisé avec Selva et Mogin pour Grand Poitiers Communauté Urbaine, l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine et la société d'équipement du Poitou.